Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mercredi 20 décembre, un spécial 90 minutes de Béliveau Rencontre. Aujourd'hui, pas un auteur ou une autrice en particulier, mais un spécial rentrée 2024 de chez Béliveau. Pour ça, il y a la Mère Noël qui nous accompagne aujourd'hui, Lolita. Salut Lolita.
Salut tout le monde.
C'est, ouais, ça te fait super bien ce petit bonnet à foufou là.
Un petit peu de couleur de temps en temps, c'est fort.
Un petit peu de couleur, puis la nouvelle directrice générale de Béliveau. Salut Annabelle.
Bonjour.
Ça va bien?
Très bien, vous-même?
Oui. Il y a pour la rentrée de 2024, on va avoir Annabelle qui va présenter sa nouveauté, parce que oui, aussi, elle écrit. Donc, elle va avoir une nouveauté. Puis après, on va inverser les rôles. C'est elle qui va... parler de mes romans, puis après on va parler à Lolita, il va y avoir aussi Émilie Maurice, Karine Champagne aux alentours de 21h et Hélène Turmel à 21h15 pour finir à peu près vers 21h20. Il faut dire que pendant cette rentrée, c'est une partie des nouveautés, mais on peut citer d'autres noms. Moi, je pense à Sonia Lin qui vient rejoindre les rangs de Béliveau Éditeur.
On est chanceux, hein?
Il y a Librax aussi qui va être là. Donc, il y en a plusieurs auteurs comme ça. Annabelle va pouvoir vous les dire. Soyez des nôtres. Je vous rappelle qu'on est diffusé sur Unicité. Donc, si vous nous écoutez sur Unicité, on vous souhaite aussi de joyeuses fêtes. Et on est sur des pages Facebook et aussi sur YouTube, même Twitch. Sur ma chaîne Twitch, on est là. Et demain, ça va être mis sur les balados. Donc, vous allez pouvoir nous écouter. Et je vous rappelle que c'est le dernier Béliveau Rencontre qui aura lieu à mercredi, parce que le prochain aura lieu le mardi 10 janvier. Parce que maintenant, ça va être tous les mardis, le Béliveau Rencontre. Mais sans plus tarder, on va parler avec notre nouvelle directrice générale qu'on vénère.
qu'on aime.
Ouais, puis il faut, on vénère, on l'aime, et tout ce que vous voulez. Oh, il y a une statue qui est en train d'être montée.
J'arrête de me faire son nom aussi là.
Ouais, moi je vais avoir sa signature tatouée quelque part. Là, Salut Annabelle.
Bonjour.
Ta nouveauté. Ben d'abord, ta nouveauté directrice générale.
Oui.
Ça a été une belle annonce en 2023.
Félicitations! Merci beaucoup! Pas du tout prévu dans les plans de 2023, là, fait que ça a obligé de rebrasser les cartes, là, mais on s'adapte.
Oui.
Oui.
Puis il y a une belle équipe autour de toi que tu as mis en place. Puis.
Annabelle est habituée, tu as viré son discerne, toi, fait que ça, je suis pas inquiète que tu as tout mis en place. Mais écoute, il a fallu. Mais c'est sûr qu'on avait déjà. C'est Sylvie et Diane qui s'occupent de la révision. Christian, Jean-François qui s'occupe du graphisme, ça c'est resté. Puis Mathieu est toujours en place, il demeure le propriétaire, le grand Manitou, celui qui a énormément d'informations dans sa tête. Mais évidemment, il y a Jean-Luc qui s'est joint, à qui j'ai donné un rôle de responsable du recrutement des talents. Yannick fait encore des évaluations de manuscrits, Pamela est encore là, il y a Sarah qui s'est ajoutée aussi au niveau des réseaux sociaux. Donc ça fait une belle équipe. Ça fait aussi que c'est beaucoup plus facile à gérer en équipe. Et là, on commence à avoir des discussions aussi avec Prologue pour voir comment on peut travailler davantage ensemble. Puis aussi avec les deux distributeurs qui sont en Europe, parce qu'évidemment, il y a une belle collaboration qui s'est mise en place. Et j'essaie de leur donner le plus possible les informations à l'avance, qu'on ait une planification un peu plus punchée.
Structurée.
Puis un peu plus structurée, exactement. Il y a beaucoup de choses qu'on a mis en place, là, mais ça avance bien.
Puis, tu as une nouveauté, Annabelle, cette année.
Oui.
Tu reprends le clavier, pour ne pas dire le crayon, parce que à la vitesse que tu écris, c'est plutôt le clavier qui doit t'apporter.
Machine. Il y a des touches sur mon clavier, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lettres, c'est effacé.
Je ne suis pas surpris.
On va faire un Béliveauton, donner de l'argent pour acheter un clavier à Annabelle. Moi, je mets 10$. Regardez, genre.
J'accorde.
C'est quoi ta nouveauté, ma chère Annabelle, cette année?
Écoute, le titre, finalement, c'est l'art de persuader avec puissance.
Lire entre parenthèses, comment répliquer aux cons et influencer les lâches.
Ça, c'est un beau titre. J'adore ça.
Oui. C'est un livre que moi, j'aurais tellement voulu avoir beaucoup plus tôt. C'est un livre dans lequel je vous donne plein d'astuces, de trucs et de stratégies pour être capable de communiquer même quand l'autre est agressif, même quand l'autre est manipulateur, même quand l'autre est transi de peur, même quand l'autre est dans ses croyances limitantes et qu'il vous écoute pas pendant tout. Qu'est-ce qu'on dit dans ce temps-là? Comment on peut amener l'autre à se mettre en mouvement? Comment on peut amener l'autre à entendre notre point de vue, à comprendre ce qu'on est en train de lui dire et finalement à commencer à se mettre en action? Parce que moi, je me suis retrouvée dans plein de situations. Je vous raconte une anecdote. Il y a de nombreuses années, à un moment donné, je travaillais pour une firme privée et on m'a demandé de faire un diagnostic dans une organisation où il y avait des accusations de harcèlement psychologique. On me demande de rencontrer le directeur général, de rencontrer les employés, de rencontrer les membres d'un conseil d'administration. Il y a la moitié des employés qui sont terrorisés juste à l'idée de revoir le directeur général. Elle ne travaille plus dans l'organisation, elle travaille de la maison, je les rencontre à mon bureau. Et quand elles parlent du directeur général, elles en tremblent tellement elles en ont peur. Fait que, et elle me raconte que quand il se fâche, il lève le ton, il lance les objets, mais il lance pas juste les objets, il prend les bibliothèques, le meuble au complet, puis il lance le meuble. Fait qu'à un moment donné, je dois évidemment aller le rencontrer, je vais le rencontrer dans les bureaux de l'organisme, et on m'envoie dans une petite salle de rencontre qui est au sous-sol. Et là, je rentre dans la salle et la première chose que je remarque, c'est la mini-fenêtre dans le haut du mur qui a une barre de métal au milieu. Puis là, je me dis, oh, il n'y a pas d'autre porte de sortie, il n'y a pas d'autres accès. J'espère que ça va bien aller. Le monsieur, il rentre, je suis assise à une table et il est entre la porte et moi et il se met à hurler. Mais à hurler. Le gars, il a l'air d'un joueur de football, il a les épaules larges de même, il a les pectoraux deux fois la largeur de mon corps, ses bras sont plus gros que mes cuisses, il est énorme, il est gigantesque, il est hyper musclé, mais il hurle, il frappe sur le bureau, ça n'a juste pas de bon sens. Et moi, je fais juste mettre mes bras sur la table pour pas qu'il puisse me flipper d'en face. J'ai les pieds d'à côté sur les pattes de la table pour pas qu'il puisse me la rentrer dans l'estomac. Et je fais juste me dire, je peux pas me rendre à la porte, il va m'arrêter avant, puis je passe pas par la fenêtre. Qu'est-ce que je fais? Faut que je trouve un moyen de le calmer. Et je me suis retrouvée dans plein de situations comme ça. À un moment donné, je dois interroger des meurtriers pour un plan de réinsertion sociale. Fait qu'on m'envoie à la prison Sainte-Anne-des-Plaines. Et j'ai avec moi une quinzaine de prisonniers qui sont tous des meurtriers. Puis moi, ben, je suis tout seul dans la salle avec eux autres, puis je leur parle, puis je leur pose des questions. Je me suis retrouvée dans plein de situations comme ça où j'ai intérêt à trouver les bons mots, j'ai intérêt à me débrouiller pour réussir à faire en sorte que les gens adhèrent à ce que
tu fais. Il faut qu'il aille vite dans ce temps-là, dans ta tête, Annabelle.
Mais sapristi, ça, écoute, ça n'a pas de bon sens.
Ton livre a dû germer longtemps là, pour arriver à tout analyser puis tout concocter un melting pot, comme on dit, là.
C'est oui, puis à un moment donné, tu sais, je suis allée faire des cours de communication non violente, mais je suis allée faire aussi beaucoup de cours d'hypnose et d'hypnose conversationnelle pour comprendre comment on peut influencer l'autre, comment l'autre fait pour nous influencer. Ça vous est sûrement déjà arrivé à un moment donné de faire un achat puis de te dire après, mais pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi j'ai accepté ça? Et les gens, évidemment, vont utiliser des stratégies particulières, puis quand on les étudie, mais évidemment, on peut aussi les détecter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, puis on parlait tantôt des vacances. Moi, quand je vais dans le sud avec mon conjoint, il faudrait nous voir. Quand il essaie de nous accrocher pour du time sharing, mes réponses changent complètement parce que inévitablement, je sais ce que je vais répliquer, je sais où est-ce que je m'en vais et je ne me laisse pas intimider par qui que ce soit. Fait qu'évidemment, je vous ai sorti les meilleures stratégies, les meilleures approches pour être capable de vous démerder dans n'importe quelle situation. Peu importe avec qui. Puis moi, évidemment, comme je fais du coaching, ça va m'arriver d'intervenir aussi en entreprise dans des cas où il y a quelqu'un qui est très agressif, quelqu'un qui est très manipulateur, quelqu'un qui est très, très séducteur ou très charmeur. Et comment on fait pour faire en sorte que la personne réussisse à comprendre notre point de vue puis qu'on l'amène là où on veut l'amener, ouais, de façon, évidemment, à ne pas lui nuire, mais en même temps à faire en sorte que l'entreprise en sorte gagnante ou que les gens qui sont dans la situation puissent en sortir gagnants aussi.
Il y a des
ça personnes... va devenir un livre de chevet, ça, ton livre. Ça va être essentiel pour tout le monde.
Oui.
Mais est-ce qu'il va y avoir des exercices dedans? Comment...
Oui. OK. Oui, je vais donner des exercices, je vais donner des points, puis je vais donner des cas réels. Puis je vais donner des phrases qu'il faut absolument éviter et des phrases qui, au contraire, donnent un bon résultat pour vraiment pour que les gens comprennent bien l'impact des mots. Parce que, par exemple, on l'oublie régulièrement, mais le cerveau occulte la négation. Donc, quand on est stressé, on a une tendance à utiliser, surtout au Québec, là, beaucoup de phrases avec des « ne pas ». « Fais pas ça, je te l'ai dit de pas faire ça, puis je t'ai dit que tu m'écoutais pas. » Puis il y a beaucoup de « ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas. »
C'est pas bon, ça.
C'est pourri. Parce que le cerveau ne retient que les mots-clés. Puis quand on est énervé, le cerveau va filtrer encore plus. Et il va retenir juste 2-3 mots-clés. Donc, si on utilise des phrases qui ont une négation dedans, inévitablement, on n'obtiendra pas le résultat qu'on veut. Mais il y a en plus des façons d'amener les choses. En vente, en marketing, on va utiliser par exemple le storytelling, de raconter une histoire qui va permettre à l'acheteur de s'identifier à la situation, de s'identifier à ce qu'on veut lui vendre et d'avoir envie de l'acheter. Mais il y en a d'autres stratégies qui fonctionnent merveilleusement bien et qui permettent de désamorcer énormément de gens. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus costauds que moi et quand ça s'énerve, mais je fais pas le poids. Fait que j'ai intérêt à trouver les bons mots et ça m'est arrivé régulièrement. Et les trucs, évidemment, je me suis arrangée pour les partager avec mon conjoint parce que lui, avec ses employés, avec sa clientèle, il n'est pas avec les mêmes gens. Fait qu'il pouvait le tester de son côté quand ça vient de la bouche d'un homme, quand ça vient de la bouche d'un entrepreneur, quand c'est dit à un employé, ça fonctionne-tu? Et puis, évidemment, moi, je l'ai essayé, évidemment, avec mes clients.
Puis il y a des gens qui nous écoutent. Vous pouvez poser vos questions à Annabelle. Il y a Julie Lamarck qui est là. Il y a Nadia Galland de Bécomo qui est là. J'ai affiché les messages. Elle nous dit bonjour, Julie. Il y a Nadia qui est là aussi. Il y a Alain Lafond qui nous écoute aussi. Il y a José Arbic aussi. Donc, on est quand même beaucoup de personnes ce soir. Puis il sort un livre de chevelon.
Attends, juste une petite question. Dans ton livre, là, est-ce que tu donnes, parce que veux pas, ça prend un self-control pour certaines situations. Tu donnes-tu aussi des exercices pour retrouver le self-control de toi-même là, quand il arrive des situations comme ça? Oui?
Oui, parce qu'il y a beaucoup de situations qui font qu'on a de la difficulté à trouver les mots dans notre tête. Parce que vous êtes sûrement déjà arrivé d'être dans une situation où l'autre personne vous dit des paroles blessantes, de pas trouver les mots, mais de les trouver 2 heures
plus tard.
Ouais. Là, de dire, oh, j'aurais dû y dire ça. Et souvent, sur le coup de l'émotion, ce qu'on ne sait pas, c'est que 70 % du sang qui est dans notre cerveau cortical, le cerveau qui est supposé être capable de réfléchir puis de trouver les bons mots, là, il y a 70 % du sang qui se retire pour s'en aller dans le reste du cerveau parce que le cerveau se sent en mode survie. Fait que ça s'en va dans le reptilien puis dans le limbique. Fait que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver les mots. Mais il existe des techniques pour ramener le sang dans le cortical et réactiver la fonction corticale. Parce que quand on est dans l'énervement, ça veut dire que notre cerveau, il reste dans l'émotion. C'est le cerveau limbique qui s'active. Fait qu'au lieu d'être une discussion dans notre cerveau qui va du limbique au cortical puis qui revient au limbique, c'est juste du limbico-limbique. C'est juste le limbique qui se parle. Fait qu'évidemment, tout ce qu'on trouve comme mot, ben, on est mieux de pas les dire parce que vraiment, ça ne ferait qu'empirer la situation quand on réussit à trouver quelque chose. Donc, je vous donne des exercices pour réussir à s'apaiser le plus vite possible et être capable de s'affirmer avec bienveillance. Parce qu'il faut pas juste trouver les bons mots, il faut trouver le bon ton, il faut trouver la bonne posture. Parce qu'évidemment, si on dit à l'autre, j'entends ce que tu me dis, ça ne sonne pas tout à fait de la même façon que si on dit, ouais, j'entends ce que tu me dis. On n'a pas la même approche.
Non, c'est sûr.
Ça ne donnera pas le même résultat.
C'est sûr.
Il y a Nadia Galland qui dit, c'est tellement intéressant. Puis Hélène Landry, de Rimouski, je l'ai vu au Salon du livre de Rimouski, elle demande quel est le titre de ton livre. Donc, est-ce que tu peux nous le répéter?
L'art de persuader avec puissance.
Et il sort dans le mois de mars.
Fin mars, probablement.
Fin mars 2024, donc tu seras sans doute au Salon du livre de Québec.
On est en train de travailler là-dessus, là.
Oui.
On a hâte!
Ben, c'est... on a hâte de faire d'ailleurs un Béliveau rencontre ensemble pour pouvoir en parler. Puis ton sous-titre, moi je l'adore. c'est, ah, il y a une question Julie Lamarre, elle dit, est-ce que ton livre s'applique plus aux adultes ou les enfants et adolescents qui pourraient en bénéficier ou leur maturité n'est pas assez à terme pour pouvoir utiliser les outils?
Les adolescents, ça va être très utile parce que le cerveau, dépassé 12 ans, ça va être assez simple. Pour des enfants, ça va prendre un adulte qui va venir vulgariser certains éléments parce que c'est sûr que dans le livre, je vais vous mettre aussi des recherches. C'est pas un livre d'opinion. C'est un livre de faits. C'est un livre de recherche. C'est un livre d'éléments validés. Fait que je vous arrive avec ce que les neurosciences sont venues expliquer pour que vous compreniez. Par exemple, en psychologie, on a compris que quand on est allé étudier ce qui se passe dans le cerveau, quand on veut parler à notre adolescent puis qu'on est en train de le disputer puis qu'on a l'impression qu'il ne nous écoute pas. Mais en fait, en psychologie, on s'est rendu compte, en neurosciences plus particulièrement, donc en neuropsycho, on s'est rendu compte que quand on parle à un adolescent de façon à le réprimander, il y a plusieurs aires cérébrales qui s'éteignent. Ça se met à off. Fait que c'est pas juste qu'on a l'impression qu'il ne nous écoute pas. Pour se protéger, son cerveau s'éteint. Donc, ça ne donne rien d'utiliser la réprimande, la critique puis le chialage. Ça ne donnera jamais de bons résultats. On l'a validé avec les adolescents. On l'a validé avec les adultes, on obtient exactement le même résultat. Le cerveau arrête de fonctionner pour se protéger. Donc, je vous arrive avec des vrais éléments de la science pour bien comprendre comment fonctionne vraiment le cerveau et non pas de oui dire, puis j'ai lu quelque part dans une revue...
Que
ça se pourrait que, exactement.
Il y a Julie qui demande, donc il serait très utile... pour les TES dans les écoles secondaires et cégep, pour les élèves qui ont de la difficulté à entrer en relation ou s'exprimer.
En fait, dans ma clientèle, j'en ai des techniciens en éducation spécialisée, justement pour les aider à trouver les bons mots. Puis évidemment, c'est plus facile pour moi parce que je ne suis pas en contact avec l'adolescent sur lequel ils doivent intervenir. Puis, fait que j'ai pas cette dualité-là, j'ai pas ce stress-là. Évidemment, je vais leur trouver plus facilement les mots, les approches, les stratégies. Souvent, je l'ai testé de toute façon sur des clients. Fait que c'est encore plus facile, là. J'ai des professeurs aussi dans ma clientèle. Justement, parce que c'est souvent une clientèle qui peut être difficile, surtout depuis la pandémie. Je ne sais pas pour d'autres,
oui. Mais... Ça a tout changé.
Je constate une hausse de l'agressivité puis une hausse de l'anxiété.
Puis les nombrils ont beaucoup grossi.
Oui, je suis d'accord avec cette affirmation.
Ouais.
Fait qu'il faut s'affirmer, s'ancrer, puis rester ferme, parce que sinon, on veut trancher des têtes.
C'est pas facile.
Il y a Julie Lamarre qui dit « Très intéressant, essentiel ». Et Nadia Galland, elle dit « Ça donne le goût ». Et elle dit « Comme c'est fou, comme tu as raison, et j'ai hâte de le découvrir ».
Ça devrait être. En tout cas, c'est intéressant à écrire. Puis là, évidemment, quand je me mets dans la rédaction, je replonge dans des lectures, je replonge dans des formations, je vais chercher des informations. Parce que des fois, on lit des choses, on le sait que c'est super intéressant, mais le livre, on va l'écrire 3, 4, 5 ans plus tard. Fait que là, il faut retrouver les informations. Fait que là, je suis là-dedans. Là.
Es-tu terminé d'écrire ou
non.
Tu le confines? OK.
Là, tu veux une storm avec tes bibliothèques?
Oui. Je suis aussi ghostwriter pour certains auteurs, puis là, je viens de finir le livre de quelqu'un d'autre.
Fait que ouais.
Je me suis libérée de cette tâche. Fait que là, je peux me concentrer juste sur le mien.
Si on veut respecter l'horaire, on va passer à la prochaine personne que je connais un petit peu.
Ah oui, toi-même?
Oui, moi-même.
Donc, bonjour, là, Jean-Luc! Ça va bien?
Ça va bien!
Mon cher Jean-Luc, l'année passée, tu as sorti pour un instant.
Oui.
Ben, l'année passée. C'est parce que moi, je suis déjà en 2024. Là.
Oui, c'est vrai, tu es en avance, toi.
Moi, je suis toujours en avance. Je planifie. Mais en 2023, tu as sorti donc un roman historique qui était Pour un instant.
Oui.
Sauf qu'à la base, tu avais sorti avec une autre maison d'édition une trilogie de thriller.
Oui.
Avec deux personnages qui ont été fortement appréciés par une clientèle de fans invétérés.
Fini.
Des fans finis qui se font tatouer ton nom. Et là, évidemment, ces fans-là ont demandé le retour.
De Clark et Clara.
Voilà.
Puis, mais pour un instant, J'étais en train d'écrire le tome 4 de Karck et Clara quand l'histoire de Pour un instant, elle est arrivée dans ma vie. Donc,
elle a jailli.
Ouais, donc j'ai tassé Karck et Clara, ne m'en voulez pas. Puis là, j'ai écrit Pour un instant, mais là, enfin, il va avoir le quatrième tome qui va s'appeler Délire d'amour, qui va sortir fin mars. Fin mars 2024, où ça va être un tueur en série qui s'attaque aux webcameuses érotiques. Moi, j'ai trouvé un article sur le New York Times où il disait qu'après, durant le COVID, comme quoi qu'il y avait beaucoup de femmes de 20 à 68 ans qui se sont lancées dans une carrière de webcameuses érotiques. Et qui se faisait à peu près 30 000 $ par mois de salaire, sans payer d'impôts et rien. Et là, j'ai commencé à fouiller. Puis là, j'ai commencé à faire des entrevues pour savoir si c'est vrai, est-ce que le 30 000 et tout ça. Puis oui, j'en ai discuté avec trois fois à peu près une quarantaine de minutes. Ils m'ont révélé leur salaire, combien qu'ils gagnaient, puis comment ça fonctionnait. Parce que ce n'est pas de l'argent qu'on envoie, c'est des jetons où ils font des, par exemple, des défis et tout ça. Puis plus que tu donnes des jetons, plus qu'il y a des défis qui sont osés. Donc, je me suis dit, j'ai une histoire. Et là, j'ai mis un tueur en série là-dedans, que c'est avec des choses bizarres. Mais j'ai beaucoup aimé à écrire ça. Mais ça va être la fin d'une époque pour Clark et Clara. Parce qu'après, ça va terminer un chapitre, ce tome 4, pour peut-être de nouvelles aventures par après, mais sous une autre forme.
D'autres avenues.
Oui.
Qu'est-ce que tu as trouvé le plus facile à écrire dans ce livre-là?
Le plus facile? Il y a certains passages que je ne peux pas dévoiler. Mais ça a été quand même beaucoup de travail. Mais le plus facile, c'est de bâtir l'histoire au complet pour qu'elle tienne la route. Mes fameux post-it et tout ça. Donc, qu'on me demande souvent dans les salons du livre, « C'est-tu vrai, les post-it? » Ben oui, c'est complètement vrai.
Oui, c'est vrai. Ils s'en achètent tout le temps.
Ben oui, bien. J'ai des roses, j'ai des blancs, j'en ai toutes les sortes. Mais plus facile à écrire. Quand je suis avec Clark et Clara, c'est un peu un prolongement de moi, ils m'habitent complètement là, puis c'est moi, je les adore, je les adore vraiment.
Est-ce que tu restes, toi, avec des impressions après avoir écrit une scène, avec l'émotion de certains personnages, avec certains souvenirs qui viennent dans les rêves aussi?
Non, pas du tout.
Tu te détaches complètement?
Moi, je me détache, puis j'ai une mémoire effaçable. C'est-à-dire, une fois que j'ai mis le mot fin, c'est fini. Puis quand je suis en correction ou quand je fais des entrevues, ben, je suis obligé de relire le roman parce que je l'ai oublié. Parce que ma tête est déjà ailleurs, je suis déjà dans le prochain livre. J'ai une mémoire effaçable très rapide. Donc, j'ai peut-être ce truc-là. Mais après, je me replonge complètement dans l'histoire. Puis écoute, quand même, l'année prochaine, il y en a trois qui sortent. Là.
Justement, parce que celui-là, il sort au printemps, mais en septembre, on a un autre livre qui sort dans un tout autre domaine. Et si je revenais te chercher?
Oui, qui est sorti il y a 12 ans, qui était une romance. Je l'avais, lui aussi, complètement oublié. Puis, il y a des lectrices qui m'ont demandé, hey, ce livre-là, on peut le trouver où? Nulle part. Il était sorti en version numérique à l'époque, puis il avait très bien fonctionné, en version déjà numérique. Puis après, on s'en est parlé, parce que Prologue recherchait des romances, et j'ai dit à Annabelle, je pense que j'en ai une qui traîne quelque part.
Et il faut dire aussi que dans un salon, tu as des lecteurs, des lectrices aussi qui t'en ont demandé.
Oui, qui m'ont demandé des romances, puis ils m'ont dit, c'est quand que tu écris des romances et tout ça. Puis moi, je savais que j'en avais qui traînaient, là, mais là, j'ai vu qu'il y avait une demande pour ça. Donc, il y a deux romances qui sont déjà écrites. Et si je revenais te chercher, c'est la première fois qu'il va exister en version papier. Donc, il va être, pour les personnes qui l'ont lu à l'époque, il va être retravaillé, une nouvelle préface, il va tout avoir de nouveau. Donc, ça va être mis à jour complètement. Et le prochain aussi pour l'autre année, là, l'autre, ça va être mis aussi en place.
Puis une des particularités que tu as, toi, dans tes trailers, c'est d'avoir, puis on en a discuté tous les trois ensemble souvent, le volet vraiment page-turner.
Oui.
Que je suis certaine que tu vas avoir encore dans la nouvelle version de « Et si je revenais te chercher? »
Oui. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime, c'est de pouvoir donner l'impression de, quand on termine un chapitre, hey, « je veux savoir la suite. » C'est le truc, la méthode que moi, j'appelle la « américaine ». Qui n'est pas une version, on va dire, européenne d'écrire. C'est plus une technique américaine d'avoir cette façon-là d'écrire. Les Américains, ils l'ont. On ne peut pas dire le contraire. Eux, ils l'ont depuis longtemps. Les romans européens, par exemple, ils expliquent l'histoire du papier peint pendant 10 pages puis, pour dire qu'ils ont pris un café ensemble. C'est ça leur truc, là, les Européens. Puis moi, j'aime beaucoup la rapidité au niveau des Américains. Puis le page-turner, j'en ai besoin.
Ton titre aussi est accrocheur. Si je revenais te chercher, c'est un méchant beau titre. Là.
Oui.
Ça donne le goût, ça me donne une idée un petit peu de ce qui s'en vient. Là.
Ouais, puis c'est vraiment, c'est... l'histoire, c'est tout simple. C'est qu'est-ce que tu ferais si tu retrouves ton premier amour 26 ans après alors que tu le croyais mort?
Et un amour véritable, pas une flamme d'adolescent, un vrai amour.
Un grand amour.
Un premier amour qui débarque 26 ans plus tard alors que tu le croyais mort. C'est quoi ta réaction? Comment tu vis? Et ça, ça a été une discussion que j'ai eue à l'époque avec un ami. Puis il me dit, qu'est-ce que tu ferais si ton premier amour débarque devant toi? Je sais pas. Ça a décollé là-dessus. Ça a vraiment décollé là-dessus, puis j'ai plaisir de retrouver Anne-Adam et tout ça, ces personnages-là. Et lui, il va se passer en Europe. Cette histoire-là va se passer en Europe, dans le sud de la France et tout ça, où j'avais mes petites habitudes à l'époque.
Et on a aussi un troisième livre.
Oui, paraît-il.
Oui.
Paraît-il, on peut dévoiler le titre.
On peut dévoiler le titre parfaitement.
Non. Ça, on ne sait pas quand il va sortir. Ça va être quelque part durant 2024.
Oui.
C'est comment écrire un thriller à succès.
Voilà.
Donc, dans les salons du livre, j'en ai fait 5-6 depuis avril. L'histoire des post-it. C'est-tu vrai l'histoire des post-it? Oui, c'est vrai. Puis, comment tu écris? On me pose souvent les mêmes questions. Et là, j'ai décidé de répondre à tout le monde. Et là, j'ai expliqué comment j'ai écrit un roman thriller. Donc, de donner, en quelque sorte, c'est pas un livre de recettes. D'ailleurs, la première phrase du livre, c'est « Ceci n'est pas un livre de recettes. » C'est 99% de travail, puis 1% de talent, selon moi. Donc, c'est vraiment si ça peut amener quelque chose à ton inspiration que tu peux utiliser, je sais pas, 10% du livre, pour trouver une facilité à écrire, moi, je serais le plus heureux. Mais je vais expliquer les post-it, comment je m'y prends pour écrire un page-turner, comment choisir mes personnages, les post-it de différentes couleurs, à quoi ils servent, parce que chaque couleur a une fonction différente. Mes cartons aussi de différentes couleurs, pourquoi ils me servent. Les cahiers, pourquoi je prends des cahiers pour écrire mes histoires, puis après... J'ai tout vraiment expliqué, mais j'ai expliqué aussi d'où je viens, parce que j'ai quand même eu auparavant des maisons d'édition qui sont parties sans payer les droits d'auteur. J'ai eu, à un moment donné, j'ai envoyé un roman à 27 maisons d'édition et j'ai eu 27 lettres de refus. Donc, j'ai expliqué vraiment tout ce cheminement-là, sans rien cacher. Puis, pour dire, regardez, il ne faut pas lâcher dans la vie. Lolita a connu ça aussi.
En effet.
Avec des éditeurs un peu, des fois, bizarres. Puis, moi, j'ai publié en Europe 40 000 exemplaires. Puis, le gars fait fête.
C'est ça. J'ajouterais aussi que il y a quelques semaines, je t'ai demandé de donner un coup de main pour les évaluations de manuscrits.
Oui.
En te disant, fais pas le saut. Il y a des romans qui n'ont pas d'intrigue.
Oui.
Et je pense que ce livre-là, il est utile pour quiconque qui veut écrire un livre et qui a justement reçu des lettres de refus, qui aurait besoin de le retravailler et qui ne sait pas comment, qui ne sait pas qu'est-ce qui a fait qu'un éditeur n'a pas été attiré par son livre.
Quelles sont ses erreurs?
Exactement, parce qu'en effet, si on passe 10 pages à parler de la couleur de la tapisserie, puis de la couleur des murs de la maison, puis de la couleur du tapis, puis
ça ne marche pas.
Ça marche pas. C'est d'une platitude comme ça, pas de bon sens.
Mais ça.
Même 2 paragraphes, c'est trop. Donc, comment on fait pour rendre une écriture hypnotique? Comment on la fait pour la rendre captivante?
Et c'est fluide.
C'est pour ça qu'on avait discuté de ce livre-là, justement, pour réussir à faire rentrer dans la tête des gens c'est quoi écrire un livre. Parce que ce soit un roman ou que ce soit un guide pratique, que ce soit un témoignage, dans tous les cas, il faut qu'il y ait un fil conducteur. Donc, dans tous les cas, ça nous prend une base, ça nous prend donc un plan,
ouais.
Ça nous prend une intrigue, ça nous prend quelque chose qui fonctionne.
Et là, j'ai même fait découvrir comment je suis tombé sur le plan. C'est vraiment en allant voir la BNQ, qui est la Banque d'archives nationales en France, BNF, je pense que ça s'appelle.
Ouais. Ici, c'est Québec puis Canada.
Oui. Puis j'ai vu le plan littéraire de La Débâcle de Zola, mon livre que ma mère m'avait acheté à l'époque, et j'ai vu son plan littéraire en PDF, je l'ai téléchargé, et j'ai vu 130 pages, première partie, chapitre 1, puis lui, comment qu'il découpait, puis là, j'ai eu le déclic,
ouais.
Puis j'ai dit, OK, c'est ça que je dois faire, puis c'est grâce à la BNF, puis je le dis dans le livre, jamais, je sais pas comment je pourrais les remercier d'avoir tombé là-dessus, mais pour moi, ça a été un outil incroyable,
ouais.
De trouver vraiment ce plan littéraire-là pour m'en inspirer. Puis j'espère, comme quoi, qu'il y a des personnes qui vont s'en inspirer aussi de mon expérience pour leur coffre à outils.
Oui, excellent. On va donc passer maintenant à Lolita.
Oui.
C'est mon tour!
J'étais de le dire, parce que toi aussi, tu as eu des mauvaises expériences. On est passé par une maison d'édition commune.
Oui, on le sait, hein? Même 2?
Oui.
Mais maintenant, ça fait mal, vois, hein, quand tu as tes rêves qui sont... Et voilà, après tant de promesses.
C'est ça. C'est pour ça que je suis protectrice des auteurs. Et aujourd'hui, c'est vrai, tu as 2 livres qui sortent en 2024 chez Béliveau.
Je suis chanceuse.
On va parler des 2.
OK. Le premier, ce qui est le plus drôle, c'est que c'est le livre qui m'a donné la piqûre, le désir d'écrire. C'est le dernier, le prochain qui sort, puis il y en a plein d'autres qui ont sorti avant, mais qui ont été écrits après. Ça, c'est vraiment une série. Les 5 tomes sont écrits, mais à la base, je l'avais écrit en un seul jet. Mais écoute, 10 livres boudinés, ça dépêche, ça... il n'y a pas un éditeur qui va te publier ça. Hein? On s'entend? Fait que là, je me suis dit, je vais faire des tomes avec ça. Je vais le diviser selon l'histoire ou ce qui est le plus accessible et coupé. Mais ce que les gens savent et d'autres ne savent pas, c'est que moi, ce que j'écris, je le rêve. Je le rêve, soir après soir, suite après soir, je voyage, je m'en vais dans des pays, je vais rencontrer des personnages, je me rappelle de tout, je suis imprégnée de l'histoire. Ce sont mes outils, ce sont mes amis. C'est comme si je partais en aventure avec une gang de chums. C'est carrément ça. Fait que ça va s'appeler Cali, c'est le nom de ma fille, qui va arriver le premier tome en février de cette année. Ça va, au début, on voulait le mettre jeunesse, mais vu l'âge de mon personnage, on a décidé de mettre jeune adulte. Mais ça va être c'est du fantastique, mais c'est toujours du thriller, moi, ce que j'écris. Même si c'est du fantastique, là, il y a beaucoup de surnaturel dans ce que j'écris. Alors ça, c'est pour le premier qui va sortir au printemps.
Oui.
Puis cet automne, ben là... Mon premier qui avait sorti, qui avait rapporté un gros succès et que je me fais demander la suite depuis des années, revient sur un autre titre, une autre réécriture. Cette fois-là, on va être capable de sortir le tome 2 et le tome 3, qui maintenant va s'appeler « Des ailes et de la cendre ». J'adore mon titre.
Avant,
c'était « La rédemption de l'ange ». Ça, c'est du thriller surnaturel.
Oui. Puis comment tu te sens de republier ce livre-là sous une nouvelle forme où tu vas être revampé?
Ouais.
Tellement heureuse, là, parce que cette histoire-là, Je le sais qu'elle est, elle est à part des autres. C'est pas quelque chose, c'est pas du réchauffé, c'est pas quelque chose de déjà vu. Les personnages sont attachants, l'histoire est surprenante, puis je m'ennuyais de mes personnages. J'avais envie de replonger dans ce qui s'en venait pour eux autres, surtout de la façon que j'ai terminé le tome. Ça donnait le goût de savoir ce qui s'en venait par la suite. Alors là, je travaille dedans, puis je suis tellement heureuse, là, ça, je me sens bien. J'y retrouve des vieux amis. C'est pas mal ça.
C'est une différence, oui, c'est ça. Cali, c'est un livre qui est quand même particulier, qui nous amène vraiment dans un univers très particulier dans lequel on plonge avec toi, on vit les émotions de tes personnages avec toi. Et on, évidemment, on imagine les personnages en fonction de notre imaginaire personnel. Mais est-ce que tu pensais arriver à un moment donné à ce niveau-là d'écriture? Parce que ça demande quand même toute une gymnastique au cerveau, là.
Oui, parce que tu as beaucoup de personnages. Première des choses, fait que tu as les interactions qu'il faut qu'ils se tiennent. Puis, à quelque part, il faut que tu saches où tu te diriges pour les emmener là. Parce que quand même, il y a des embûches durant le parcours. Il y a des liens qui vont peut-être être plus difficiles que d'autres. Puis, oui, tu n'as pas le choix d'être structuré, même si c'est un rêve. Veux pas. Pour moi, mon rêve, c'est mon plan, là. Je sais exactement où je m'en vais. Je sais exactement ce que je vais faire avec eux autres, où ils se dirigent, puis qu'est-ce qui les attend. Fait qu'il faut pas que je dérape de ça pour perdre le lecteur en même temps. Puis parfois, il faut que je rajoute des détails dedans parce que moi, je le sais ce qui s'en vient, mais le lecteur ne le sait pas nécessairement.
Exact.
Alors, cet exercice-là, il a fallu que je le travaille plus sérieusement dans le premier tome parce que l'histoire, ça fait tellement longtemps qu'elle est écrite pour moi. Puis si ça va bien, ben après les 5 tomes, il pourra en avoir peut-être 3 autres.
OK.
Puis, prépare-toi, Nobel. Puis, moi, j'étais au lancement de La Rédemption de l'Ange. C'était il y a 10 ans?
En 2010.
2010, oh,
okay. 13
ans.
Presque 14. Ouais.
Ouais, puis il y avait 350 personnes dans un hall du Salon du Livre.
C'était fou, là. Même Michel Jean, quand tu lui en parles maintenant, là, il dit, je me demandais ce qui se passait, si c'était un gros nom, si c'était un mariage, c'était quelque chose. Il y avait tellement de monde. Puis mon éditrice, je me rappelle lui avoir dit, j'ai-tu un maximum de personnes à inviter? Elle dit, non, un minimum. Elle dit, quand tu auras eu 50, 60 personnes, je ne suis pas sûre. Moi, je travaille dans le public. Puis, écoute, il a fallu qu'elle retourne au Salon du Livre chercher des boîtes. Les madames, ils envoyaient le mari. Les autres continuaient à rester dans la file parce que j'ai signé de 7h à 10h30 sans arrêt. Même pas 2 minutes de break. Je n'ai jamais signé la même dédicace. J'étais fière de moi. C'était vraiment quelque chose. C'était un beau moment.
Ouais, puis moi, j'ai attendu, je pense, 1h30 pour la séance de signature.
C'est là qu'on s'est connus en vrai. Hein? On s'est parlé avant. C'est la première fois qu'on s'est vu en vrai. Puis depuis ce temps-là, on ne se lâche pas.
Non, ça a été un beau lancement. Puis écoute, ça a été. C'est une belle histoire qui va être revampée. Puis que j'ai hâte que les gens le découvrent à une plus grande échelle aussi.
Je suis chanceuse parce que sur mon site web qui va être refait, là,
oui.
J'ai au-dessus de 100 commentaires de retour sur La Rédemption de l'Ange. Puis 75 sur Parfum d'enfant. C'est rare des auteurs qui en ont autant. Là.
En effet.
C'est méga, là. Méga, méga, méga. Je me trouve tellement chanceuse. Beau privilège.
Écoute, moi, je suis pas mal convaincue que l'année prochaine, quand on va se parler, ça va être 3 best-sellers.
Oh, ça serait tellement le fun. Mais tellement le fun. Mais ce qui est important quand on écrit, c'est vraiment, moi, c'est quand je lis, c'est ça. C'est de faire voyager les gens, de rendre les personnages attachants, de les déstabiliser, de les emmener là où ils ne s'attendent pas, de les surprendre, mais de les toucher aussi.
Ouais.
Fait que quand tu réussis à mettre tous ces ingrédients-là dans ton histoire, ben je pense que tu as réussi.
Oui. On va peut-être ajouter aussi que ce qu'on t'a demandé de faire des efforts particuliers cette fois-ci pour le revamper, l'actualiser et le rendre encore plus thriller parce qu'à un moment donné, je t'ai demandé de jaser justement avec Jean-Luc pour cet aspect-là de page-turner.
Oui.
C'est ça, cet exercice-là qui n'a pas dû être évident?
J'ai adoré. Moi, premièrement, je suis une personne qui n'a pas peur de la critique. Au contraire, je trouve ça constructif. J'ai adoré ça parce que c'est un défi qui me permet de me dépasser. Puis moi, me dépasser, j'adore ça. Fait qu'à chaque fois, je suis contente de moi parce que la fois d'après, je vais avoir un autre défi puis je vais aller encore plus loin. Fait que pour moi, oui, je suis très ouverte à ça.
Puis ce qui est le fun, c'est que là, tu connais bien Jean-Luc aussi.
Oui.
Puis il a l'habitude de ce volet-là. Il était capable de dire concrètement comment on fait.
Oui. Puis c'était pas des choses majeures, mais juste le petit X, là, que... Ah, ben oui, c'est vrai, ça, j'y avais pas pensé. Ouais, la petite twist, là.
Ouais. Ouais, ouais. Le petit truc, il faut mettre quelque chose pour te donner envie de tourner la page et comment terminer le chapitre.
Ouais, d'avoir le goût d'aller plus loin, pas de dire « encore une page, encore une page. Ah, je finis ce chapitre-là. Ah non, encore un autre. » C'est ça qui est le fun.
C'était le fun parce que moi, j'ai vu évidemment l'évolution du livre, puis j'ai vu la première version où les chapitres finissaient finis, puis on pouvait dire « ah, mon chapitre est fini, je m'en vais me coucher. » La nouvelle version, tu fais « ah shit, je peux pas aller me coucher. » Parce qu'on veut justement savoir la suite. Et là, je voyais l'influence de Jean-Luc, mais à ta couleur, à ton style, à ton image, c'était différent. Puis en même temps, je voyais l'influence de Jean-Luc, mais complètement différemment.
Mais je pourrais dire
que j'ai bien écouté mon mentor.
Oui.
Je pourrais dire au moins que j'ai contribué modestement. Hey, je prends seulement 10% du livre.
Hein. Moi, j'ai contribué à pour un instant, en lui disant que maintenant, il serait dans mon club des rêveurs pour ses livres.
Ouais. Ben, tu vois, ça a été juste un... Mais, c'est pour un instant, on va revenir. Il va avoir
Donc. Mais là, c'est le fun, Annabelle, parce que si ça va aussi bien qu'on l'espère, ben, l'année prochaine, le tome 2 de Cali va sortir, le tome 2 de Désolé de la Cendre, après ça, tu as le tome 3. C'est le fun. C'est une belle aventure qui commence puis qui s'ouvre. Fait que ça, c'est super.
Et voilà. Je prends le temps de souligner aussi le travail de Stéphane Aubu, qui a été
le correcteur
deux cas, parce que ça prend un correcteur qui sait comment corriger un roman. Ça ne se
corrige
pas de la même façon qu'un guide. Il faut être pointu, puis il faut suivre la chronologie. La chronologie des caractéristiques physiques, la chronologie du temps, la chronologie de la psychologie des personnages, parce que les personnages évoluent selon les épreuves. Ça prend un cerveau particulier pour réviser des romans. Et Stéphane a fait un beau travail de collaboration pour faciliter la tâche le plus possible, puis vraiment comprendre ce que vous vouliez dire et non pas vous imposer sa version des faits. Il a vraiment été très, très attentionné.
Ben, tu m'avais dit, puis je l'ai aimé, Annabelle, tu m'avais dit, moi, je veux que ce soit le meilleur qui touche à tes livres, parce que je veux pas que tes livres soient là, je veux que tes livres soient là.
C'est ça.
Stéphane, c'est ce qu'il fait comme travail. Les livres s'en vont là.
Oui. Moi, il y a un commentaire quand même de Stéphane. Quand j'explique une certaine scène que vous allez découvrir, il m'a quand même dit « Non, ça se peut pas, ça. » Oui, je lui ai répondu.
D'où l'importance de faire ses recherches. Hein?
Exactement. Ouais. C'est une belle histoire, puis ça se peut qu'il va voir bientôt Béliveau éditeur section Saguenay, parce que les auteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Oui.
On va avoir une branche.
Oui, parce que là, on a un autre auteur, là, faut que je prépare le contrat puis que j'enligne, là, mais...
On peut-tu l'annoncer?
Ah ben, on pourrait.
On peut l'annoncer. Est-ce que vous connaissez les recettes de Chantal, qui est sur Facebook? Elle a 70 000 abonnés. C'est quelqu'un qui provient du haut du lac Saint-Jean. Elle va sortir son premier livre de cuisine. Elle s'appelle Chantal Simard. Et c'est une boule d'énergie. Quand elle fait un live, c'est plus de 1000 personnes qui l'écoutent avec ses recettes.
En direct.
Puis avec son beau Mario, comme elle l'appelle, son mari, qui est en train de filmer. Puis c'est une sorte de Marthe Laverdière, mais de la cuisine. Elle va être une boule d'énergie dans les salons du livre. Puis je crois qu'elle va même nous nourrir pendant les salons du livre.
Écoute, elle serait de genre amener du sucre à crème.
Oui, c'est tout à fait ça qu'on disait, moi, puis j'avais du sucre à crème, on dit ça.
Minimum du sucre à la crème. Moi, je m'attends un peu mieux parce qu'elle a fait quand même des slides aux fraises ou je ne sais pas quoi.
Ça va être tellement bon.
C'est ça. Moi, j'ai hâte de goûter à ces slides aux fraises et puis ton machin. Donc, il faut juste être à côté d'elle pendant une séance de signature pour pouvoir bouffer.
Ou pas le numéro pour le suivant, c'est pas ton numéro pour le prochain morceau.
Mais on est très heureux de l'accueillir. C'est une vedette sur les réseaux sociaux. C'est incroyable ce qu'elle a développé depuis les dernières années. Elle a une belle communauté qui lui est fidèle. On lui demande par semaine à peu près 500 fois c'est quand ton livre de recettes. Et elle a toujours refusé. Puis quand je l'ai approché, elle a dit « Oui, OK. »
Non, t'as une approche qui est différente, Jean-Luc. Toi, t'as une approche amicale, puis t'as une approche vraie. On sent pas que t'essayes de jouer la personne. On sent que t'es intéressé par la personne. Fait que ça fait toute la différence.
C'est ça.
C'est pas pour rien que Annabelle t'a mandaté.
D'accord.
Elle connaît des points forts.
Elle est dans la psychologie, tu sais. Des...
On ne sait pas quoi t'attendre, hein?
Il faut choisir les puissances, il faut choisir les bonnes personnes.
Exactement. Et voilà, c'est bien s'entourer.
Puis là, on parle de bouffe. Puis notre prochaine invitée, on va être encore dans la bouffe avec... on va l'accueillir, d'ailleurs. Annabelle, est-ce que tu restes avec nous?
Je vais rester encore quelques instants.
Oui. C'est Émilie Maurice. La famille. Salut! Ça va bien, toi?
Ah oui, ça va super bien. Honnêtement, c'est ça que je viens de dire à quelques personnes autour de moi. Je fais des lives tout le temps. Je fais des vidéos tout le temps. Je bosse sur des scènes, parler aux gens. Puis j'étais nerveuse de me connecter avec vous.
Mais voyons donc, tu te connectes avec tes plus fins.
Puis j'ai Claudine Fournier qui est une très bonne amie à moi. Elle m'a dit non, mais elle m'a dit oui. Elle a dit bon, toilette comme toi. Là, je suis comme je le sais, mais je suis quand même nerveuse. Fait que je l'ai dit, c'est fait. Donc, je pense que ça va laisser aller un peu mon...
Elle s'appelle mari. Comment, Claudine?
Claudine, c'est la conjointe de Bill Marchessin qui a écrit au moins une quinzaine de livres chez Béliveau.
Et elle sait qu'on va à la toilette, OK. Elle est assise avec nous. Ma chère Émilie, bienvenue dans la famille.
Ben oui, puis ton livre sort en 2024, enfin.
Enfin.
Bienvenue dans la famille Béliveau.
Ben merci, merci.
C'est une famille. C'est vraiment une famille.
Ben, ouais. Là, je ne vous connais pas tout encore. Là, je viens de te voir toi, Lolita. Là, j'avais déjà une rencontre avec vous. Fait que là, je m'introduis tranquillement pas vite. Mais quand je suis là, d'habitude, on me remarque. Fait que oui, ben, c'est ça. Là, c'est mon speech. C'est moi qui y va. J'y vais go.
Oui, oui, vas-y. C'est quoi ton livre?
OK. Fait que mon livre, mon Dieu, les recettes cétogènes, l'univers kétogène que je suis dans cet univers déjà depuis 2017, ça fait quand même un petit bout avec mes trois enfants. Et j'ai envie d'introduire mon livre comme ça parce que je pense que les gens vont comprendre pourquoi j'ai créé un livre de recettes. En 2017, quand j'ai découvert ce mode de vie-là, moi, ça a littéralement changé mon intérieur de femme, mon confort de femme. En tout cas, j'avais plusieurs irritants et je suis tombée en amour avec la cétose, ce qui vient vraiment en lien avec mon livre de recettes, avec les recettes que je propose. Et mon défi a été de justement amener mes enfants à changer aussi, à retirer le sucre. On s'entend, là, moi, mes enfants ont grandi dans les pâtes d'ours, dans les biscuits, les Yoplait. Bon, ouais, j'achetais... À l'époque, je ne cuisinais pas ma pizza, j'achetais de la pizza congelée. Fait que, tu sais, on était dans cet univers-là, des pâtes aussi, tu sais, des pâtes blanches bien faciles à faire entre la fin de l'école et un sport de soir. Donc, mon défi a été vraiment d'amener aussi mes enfants dans ce projet-là. Puis je me souviendrai toujours, la première fois que je cuisine une crêpe cétogène. Puis là, je mange ça. C'est le matin. Là. Puis mes enfants me regardent manger parce que là, ils ne sont pas prêts encore. Puis là, je parle à mon chum, puis là, je dis, Jeff, ça n'a pas de bon sens. Mon chum s'appelle Jeff, en passant. Ça n'a pas de bon sens, c'est tellement sec. Je parle, puis ça sort comme des biscuits soda.
Je me chum, oui. Tu vas avoir envie de rire de toi.
True story, là. Je parle, puis ça sort. Là. Je suis comme, c'est tellement sec, ça ne goûte rien. Donc, je me suis dit, OK, là, il faut que je trouve une alternative. Parce que clairement, pour moi, je suis consciente de l'emprise du sucre. Je le sais, tout le bonheur intérieur que je vis actuellement parce que je le fais sur moi. Je le veux pour mes enfants. Je veux que mes enfants soient capables de s'être libérés de cette emprise-là et de goûter à des aliments naturels. Mais il faut que je trouve des alternatives. Donc, je me suis mise à cuisiner. Puis honnêtement, ce que j'ai cuisiné comme en quantité incroyable, c'était des desserts et des déjeuners. Parce que c'est quand même là qu'il y a quand même un grand apport de sucre quand on se lève le matin, les céréales, les pains, bref, le grain, OK?
Ça combien de temps avant de convaincre ta famille d'y goûter et qu'ils aiment ça? Combien de temps ça t'a pris?
Je suis très persuasive, OK? Ça n'a pas été long, honnêtement, parce que comme je me suis mis à cuisiner énormément de recettes, des desserts, le soir, j'arrivais là je dis OK, il faut que je crée un dessert. Fait que là, je trouvais des recettes qui n'étaient pas du tout keto, mais je les adaptais à la style cétogène. Et là, les enfants goûtaient ça, ils me disaient, mais maman, c'est keto, il n'y a pas de sucre. Je suis comme, oui, c'est bon, hein? Mais maman, Puis là, j'en faisais goûter à ma famille, j'en faisais goûter à mes amis, à la belle famille. Tout le monde me disait la même chose. C'est bon. C'est keto, ça. Il n'y a pas de sucre. Oui, exactement. Il y a des sucres, c'est des édulcorants. Les édulcorants ont un impact sur le système. Mais les gens aimaient ça autour de moi. Fait que là, je me suis mis à créer des recettes. Et l'idée de produire un livre de recettes est venue avec tout ça. Parce que honnêtement, je me faisais demander des recettes tout le temps. J'ai créé ma page Facebook aussi en même temps. Puis du moment où ce que j'ai partagé ma première recette keto, il y a eu une explosion de commentaires. Fait que là, j'étais là, OK, OK. Tu sais, moi, j'étais...
Il y a une demande, il y a un besoin.
Oui, il y a vraiment un besoin. Il y a une demande, en fait, énormément. Donc, je me suis mis à créer des recettes et à partager. Puis ma page, elle a grossi de manière fulgurante. Et je recevais des questions. Je fais OK, ben un peu comme c'est Chantal que tu disais.
Oui.
On disait, Émilie, tu fais-tu un livre de recettes? Un livre de recettes? je cuisine à la maison, je cuisine pour mes enfants, je cuisine pour les... J'ai 3 enfants, OK? Fait que des fêtes d'enfants, là, depuis le temps, j'en ai roulé avec des gâteaux de fête. Puis même les amis des amis venaient et me disaient, c'est cétogène, ça! C'est en tout cas très drôle, là. Mais bref, ça pour dire que c'est de là qu'est venue l'idée vraiment de créer un guide de recettes pour aider les gens autour de moi. Parce qu'à l'époque, là, entre-temps, il y a eu des trucs qui ont sorti. Je veux dire, le mode cétogène a pris d'assaut beaucoup plus la population. Mais à l'époque, il n'y en avait pas de recettes.
Où ce que tu te fais regarder comme un extraterrestre.
Ah, puis c'était en ligne. Ce que je goûtais, c'était comme... C'est ça, c'était des biscuits soda qui sortaient de ma bouche. Ça goûtait... Oh, fait que là, j'ai vraiment fait des recettes aussi aux saveurs, aux ce qui est ici à la maison, chez Famille Keto, et gagnant finalement.
Et qu'est-ce qu'on va retrouver comme recette? Sais-tu entrée, le plat principal, dessert? C'est quoi comme genre de recette?
En fait, il y a 7 sections. Il y en a, il y a les déjeuners, parce que honnêtement, les déjeuners, je vous le dis, là, si vous avez envie de vous lancer dans le keto, ça va être votre défi. Je sais, toi, Jean-Luc, que tu l'as fait un peu aussi par la bande, mais tout ça pour dire que c'est vraiment les déjeuners qui sont, selon moi, le cheval de combat pour les gens, pour vraiment être capable de se distancer des produits céréaliers. Donc, il y a des déjeuners, la section soupe, crème, potage, il y a une section viande, volaille, poisson, grillade, il y a des à côté, des snacks, des collations. Il y a également des sauces, des trempettes, des breuvages et des desserts.
Évidemment, des desserts. Ta partie préférée?
Mais à l'époque, oui, c'est drôle à dire, à l'époque, parce que je mangeais beaucoup plus de desserts que là maintenant. Aujourd'hui, le fait que je suis vraiment céto-adaptée, dans le sens que ça fait longtemps que je me suis tachée. Tu sais, j'adore encore les desserts. Si tu m'en présentes un là, qui est keto, c'est sûr que j'y goûte. C'est sûr. Mais je n'ai plus autant l'addiction au sucre, ce qui fait que j'en fais, j'en mange, mais c'est pas une nécessité comme ça l'était avant dans mon ancienne vie.
C'est-tu un défi aller au restaurant quand tu ne manges que keto avec ta famille, en voyage, là?
Autant, honnêtement, parce que du moment où ce que tu comprends comment juste faire des alternatives, je te donne un exemple, OK? Exemple qu'on est sur la route et là qu'on va arrêter dans un take-out rapide, on n'a pas beaucoup de temps. Peu importe où je vais, je peux demander un burger sans le pain, entouré de lait dessus. Je prends de l'eau, je prends un café. C'est super simple. Si j'arrive dans des restaurants où on peut s'asseoir plus longtemps, bien là, j'ai beaucoup plus l'embarras de choix. Il y a souvent des salades, il y a toujours des protéines, des viandes, du poisson. Donc, je vais toujours m'en aller dans ces alternatives-là. C'est sûr que les pâtes, les sandwichs, c'est pas mon focus premier, mais encore là, si j'ai envie de manger un club sandwich, je vais juste demander à la madame ou au monsieur, est-ce que c'est possible de retirer le pain puis de l'entourer encore là de lait dessus. Donc, il y a des alternatives. Ça, c'est le genre de choses que tu vois sur ma page professionnelle Famille Keto. Quand je fais des lives, je le partage, je donne des idées. J'ai un super guide aussi qui peut aider les gens à comprendre comment avoir des alternatives au travers de la nourriture.
Il y a Hélène Landry qui demande, est-ce que pour les personnes diabétiques, est-ce que c'est conseillé?
Écoute, moi, ce que je dis toujours, je ne suis pas médecin. Première des choses, donc je me protège, OK? Je sais que je suis quand même écoutée par plusieurs milliers de personnes. Je ne suis pas médecin. Par contre, on sait que l'Ordre des collèges du médecin mentionne que l'alimentation cétogène peut renverser, voire vraiment réduire les effets ou bref, le diabète de type 2. Donc, moi, ce que je propose, c'est un livre de recettes qui est à l'essence de l'alimentation cétogène, qui amène les gens aussi en métacétose, qui travaille avec des aliments qui sont extrêmement faibles en sucre. Donc, personnellement, si moi j'étais dans cette condition-là, je mangerais mes recettes. Je ferais mes recettes. Mais, tu sais, vous comprenez, c'est des questions que je reçois aussi, puis je trouve ça intéressant que je la reçoive là, ici, en live avec vous, parce que c'est des questions qui me sont posées, mais je veux quand même me protéger. Je ne suis pas médecin. Si la personne est dans cette condition-là, c'est quand même à elle de faire soit ses recherches ou directement d'aller demander avec son médecin, parce que j'imagine qu'elle est suivie.
Oui, il y a des suivis. Okay. Puis maintenant, bonne réponse. Très, très bonne réponse. Puis regarde, je ne le cache pas, je suis diabétique. Donc...
Fait qu'il va falloir que tu te procures le livre d'Émilie.
Absolument.
Bon, mais déjà que j'ai perdu 92 livres je ne sais pas combien de mois, là, en un an.
Un an et demi.
Un an et demi.
Très impressionnant.
Oui, vraiment.
Là, en réalité, dans cet univers-là, beaucoup, tu sais, je vais être transparente, là, énormément de gens vont se lancer dans ce projet-là, vont vouloir changer la composition dans leur assiette. Mais il y a une infime partie de gens qui vont le maintenir sur le long terme. Oui, je ne veux même pas dire le long terme, dans le sens qu'ils vont le maintenir. La réalité, c'est que le sucre, la pelle de sucre, on sait là, quand on rentre à l'épicerie, qu'est-ce que ça sent? Les croissants, là, ils sont sur le bord, là, ils sont là, puis ils nous appellent, ils veulent qu'on... Quand on va au restaurant, si on n'est pas déjà dans la perspective de faire des alternatives, les gens, des fois, vont prendre ce qu'il y a dans le menu, mais... Aussi bête que ça, il peut suffire d'une fois où ce que tu as dit, bon, ce soir, je me gâte, je vais manger
un sandwich
avec le pain, avec du beurre à l'ail, puis après, je vais me prendre des sucres à la crème. Mais le lendemain, ça peut être juste cette porte d'entrée-là qui fait que
tu files pas.
Tu prends la voie de sortie, puis là, t'es reparti pour. T'es reparti de trop, malheureusement.
Mais,
il y a du crunch à quelque part.
Il y a des bruits bizarres.
Oui, il y a des bruits
bizarres. Mon chat est en train de remplir les granules dans le poêle. C'est ça, le crunch-crunch. C'est
juste tombé dans
le crunch-crunch.
Ouais. Puis,
c'est fini!
Non, mais c'était... Merci, Marcel.
J'aurais dû fermer mon micro.
Oui. Non, mais c'est Émilie. Moi, il y a un truc que je ne peux pas couper, là, parce que regarde, je suis européen, je suis italien, puis je l'assume. C'est le pain, puis les pâtes. Non, je préfère mourir que gâter.
Ça coule dans tes veines.
C'est le pain, les croissants, les chocolatines. Non, regarde, ça, c'est.
Puis, je suis curieuse, je te pose cette question-là, parce que là, est-ce que tu le fais encore, le style keto, cétogène? Est-ce que tu es encore là-dedans?
Ben moi, je mange, je surveille mes gluten, mes glucides et tout ça. Donc, je surveille mes sucres, mais devant un croissant, non. Moi, je craque.
Mais quand tu manges ton croissant, parce que je comprends ce que tu dis, parce que le fait d'avoir, tu as un plaisir en bouche, tu as de la dopamine, je veux dire, oh mon Dieu, c'est festif, c'est bon, là. Mais le peu de temps de bonheur versus la chute de peut-être l'énergie, de peut-être des maux de tête, peut-être des maux de ventre. Pour moi, personnellement, ça est dans la balance. Là,
ça ne vaut pas la peine.
Ouais.
Mais est-ce que tu ressens ces symptômes-là quand tu prends cette voie-là?
Non.
Ah, non. En fait, c'est que souvent, puis j'ai travaillé assez souvent avec Jean-Luc, souvent, les gens sont très focus sur le plaisir immédiat. Et après, ils s'occupent tellement qu'ils ne ressentent pas les effets qui sont pourtant là.
Ah ben oui, c'est sûr.
Ils sont là.
Oui, la baisse d'énergie, peut-être une lourdeur.
La fatigue, oui, la fatigue.
On remplace par un expresso.
Oh! Ça vient avec le croissant.
mais là, il est plus sage. Au lieu de 4 par jour, il a baissé à 2 expressos par jour. Son corps lui parle.
Ouais, mais j'étais rendu à 5.
Oui, c'est ça.
Mais ce que j'aime, tu vois, des recettes, justement, le fait de cuisiner vraiment cétogène avec des aliments naturels, il y a tellement une belle connexion qui se refait avec le corps. C'est incroyable. Au niveau des ressentis du corps, là, tu sais, je le dis, là, avant, moi, d'être cétogène, d'être dans cet univers-là, j'étais engourdie. J'avais des symptômes, mais je n'étais pas connectée comme je suis connectée aujourd'hui. Aujourd'hui, exemple, là, je vais au restaurant parce que ça reste que moi à la maison. Tout ce que je, avec les items avec lesquels je travaille, ça va toujours être des bonnes huiles, des bons gras. Mais quand je vais au restaurant, exemple, que j'ai pris un déjeuner, des œufs, mais que les œufs ont été cuits avec de l'huile de canola ou du putsch-putsch, c'est sûr que dans l'heure qui suit, dans la journée, je le ressens. Il y a quelque chose qui fait que je sais qu'au niveau de mon alimentation, ce n'était pas, je vais dire le mot clean, il y avait quelque chose qui était. Oui, exactement. Donc, ça, je le ressens. Ça, c'est vraiment du fait que j'ai changé la composition de mon assiette. Je suis vraiment bien connectée avec mon corps.
Moi, ce que j'avais aimé dans ton livre, c'est qu'on comprend le vrai principe cétogène. Parce que j'en ai vu beaucoup des gens se lancer dans un régime. Mais oui. Pas comprendre les bases, puis arriver au resto, puis se prendre des frites, du bacon, en me disant « ça prend du gras », puis il y a du pain à côté, puis tu te dis « mon Dieu, comment est-ce qu'il va se sentir après? Ça marche pas! »
Un duo explosif, mélange les uns.
Là, Émilie, ton livre, il va s'appeler comment? Puis il sort quand? Parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus.
Oui, bien là... En 2024, début 2024, fait que la date exacte, je ne le sais pas encore. Oui, exactement. Fait que ça s'en vient vraiment. On est là dans les derniers fignolages. Là. On s'entend, tu disais le temps que la personne qui corrigeait ton livre était pointue, bien, c'est la même chose avec nous. On veut que le livre, lorsqu'il va sortir, qu'il soit impeccable. Donc, c'est la même chose. On est vraiment dans les fignolages. Je sais, les gens me le demandent en privé. Tout le monde vient m'écrire, « Émilie, quand est-ce qu'il sort ton livre? » Ça s'en vient. On est là-dedans. C'est juste une question de... Je peux dire une question de semaine.
Oui, c'est une question de semaine. Il faut juste qu'on fignole. Puis là, bien, évidemment, on a le temps des fêtes.
Oui.
Puis tout le monde a le droit à des vacances, c'est normal?
C'est ça. Oui, moi aussi, là, je pars au Nouveau-Brunswick là, dans quelques jours là, avec ma belle famille. Fait que c'est bien normal. Fait que mon livre va s'appeler « Cuisine kétogène, famille keto ». Donc, ça s'en vient bientôt. Vous allez voir, là, ça va être nous sur la page. Je préviens mes filles. Je dis là, les filles, vous savez que vous allez être dans le livre. Là. Les gens vont vous connaître. Ils sont comme « Oh mon Dieu! » C'est très drôle.
Ils ont quel âge, les filles?
Ma plus vieille a 15 ans, est en secondaire 4. Ma deuxième a 13 ans, elle va avoir 14 en secondaire 2. Puis j'ai un garçon qui est en quatrième année, qui a 9 ans.
Merci beaucoup, Émilie, d'avoir pris le temps. Puis encore une fois, bienvenue dans la famille de Béliveau.
Ben merci énormément. Vous n'êtes pas trop gênant, finalement.
Non.
On s'en va. Joyeuse fête à toi.
Joyeuse fête.
Fait que je me déconnecte. Bye.
Bye. Et notre prochaine invitée, elle nous attend. Dans la salle d'attente, on peut dire, et non la moindre. Et je suis très content qu'elle rejoigne la famille Béliveau. C'est notre chère Karine Champagne.
Allô!
Comment ça va? Ça va bien?
Ouais. Tu m'entends?
Oui, je t'entends.
Okay. Ouais, je vais magnifiquement bien. Puis, Émilie, je l'adore. Puis, je dois te dire que je pose énormément de questions à mon corps. Puis, c'est arrivé à un moment donné où j'étais dans une librairie. Puis je cherchais et j'ai été attirée littéralement par des recettes cétogènes. J'avais la perception que le livre était aimanté sur moi. Je n'ai jamais été capable de le déposer et j'ai commencé du jour au lendemain à manger de façon cétogène pendant une bonne période et j'ai vu une transformation phénoménale. Fait que j'aime beaucoup le principe d'Émilie, j'aime le kétogène, j'ai super hâte de voir son livre.
C'est en plus, il va voir ton livre qui va être chez Béliveau Éditeur.
Yeah!
Puis avec Karine, ben, dans les trois dernières années, avec ce que j'ai vécu, moi, je m'étais inscrit à son infolettre. Puis elle m'a aidé sans le savoir. Je ne lui ai jamais dit jusqu'à quand qu'on se rencontre au Salon de l'Éveil, où je te l'ai avoué. Puis comme quoi qu'elle m'avait aidé comme ça à traverser des choses. Puis là, on s'est parlé. Puis là, je lui ai dit, viens-t'en chez Béliveau. Puis ça a connecté. Puis je suis très heureux qu'elle rejoigne la famille Béliveau. C'est très, très... C'est un honneur. Hey, vraiment.
Ça me donne des frissons de t'entendre. Je suis vraiment émue. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir créer avec Béliveau puis avec toute l'équipe. Je suis excitée. de la réédition de La poussière peut attendre qui va prendre une nouvelle twist. Et si le but de la vie était de s'amuser, pour moi, ça, c'est clair. On est sur un grand terrain de jeu. Il y a plein de questions. Tout est à créer. Et de savoir que ce livre-là va renaître à travers la maison d'édition, puis avec quelques chapitres supplémentaires, légèrement bonifiés, magnifiés de nouvelles questions, ça m'excite au plus haut point, surtout de voir aussi ça va être quoi la suite des choses. Ouais.
Puis la présence dans les salons du livre, les séances de signature.
Oui, parce que ce livre-là, c'est la première fois que j'ai choisi de faire La poussière peut attendre. J'avais pas été inspirée encore à aller vers une maison d'édition. Fait que j'avais choisi de le faire toute seule, puis d'y aller toute seule. Ça voulait dire qu'il y avait une partie à laquelle je savais que je pouvais pas me présenter comme les salons du livre, en tout cas avec le kiosque et tout le reste. Puis là, de voir la magie qui s'est rapidement installée entre Mathieu, toi, Annabelle, Lolita, j'ai pas eu la chance de te rencontrer encore, mais
ça sent bien.
De voir que ça mixait comme ça, qui me propose de dire, ben moi, j'ai envie de le repousser. Je sais que je perçois qu'on peut faire quelque chose encore avec ce livre-là. C'est comme, oh my God, OK, c'est ça que je voulais. Que quelqu'un juste me tende la main et dise, il y a autre chose à faire, qu'on peut aller autrement, différemment. Fait que c'est bien excitant.
Peux-tu nous parler un petit peu de quoi ton livre parle?
Moi, je suis une fan finie de la question. OK, pour moi, la question, c'est l'outil d'empuissancement personnel le plus phénoménal qui existe. Fait que moi, je me pose des questions, je remets tout en question. Je pose des questions à mon corps, je pose des questions à mon livre, à mes créations, à ma business, au corps de mon amoureux. Je pose des questions à absolument tout, tout, tout. Il n'y a pas une sphère où je ne pose pas de questions. Et ça me permet de créer ce chemin qui est ma propre vérité, qui est pour moi. Donc, on n'est pas, quand on pose des questions, on n'est pas dans des stratégies toutes faites. On n'est pas dans 4 façons pour être plus heureux ou 3 façons pour avoir plus de succès. On est dans les questions pour voir qu'est-ce qui va fonctionner pour nous. Fait qu'à travers le livre, et si le but de la vie était de s'amuser, je parle de toutes les questions que j'ai pu utiliser, que ce soit pour donner ma démission à TVA. Et s'il y a des gens qui me regardent en ce moment, qui reconnaissent peut-être ma voix, qui se disent, il me semble, elle me dit quelque chose. C'est que ma job antérieure, ma job pendant 21 ans de temps, ça a été journaliste, actrice de nouvelles à TVA, LCN, TVA Sport, jusqu'à ce que je me dise, ça se peut pas que ça soit juste ça la vie. Fait que même si j'avais la grosse job, la visibilité, ma face sur un billboard, des autobus, je me disais, ça se peut pas que ça soit juste ça. J'étais appelée à plus. Fait que je parle de toutes les questions que j'ai utilisées, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la démission, au niveau de la maladie dégénérative de mon père, au niveau de la transition de ma mère, quand ma mère est décédée de façon accidentelle. Quelles sont toutes les questions que j'utilise dans les différentes étapes de ma vie pour accéder à plus de légèreté? Et ça m'ouvre des portes, là, incroyables. La question, c'est pour moi, là, c'est, tu sais, je suis une fan finie de la question, fait que c'est sûr que je suis complètement biaisée quand je vous parle de questions, mais la question, c'est un outil extrêmement puissant.
Oui, puis
ton jeune livre... des journalistes en arrière qui reviennent avec ça, là.
Exact. Mais tu sais quoi? C'est intéressant que tu dises ça, Lolita, parce que comme journaliste, c'est rare qu'on pose des questions ouvertes. C'est rare qu'on pose des questions qui permettent la création. Quand on pose des questions, puis même probablement que les gens qui nous écoutent vont dire « Ah, c'est vrai, moi, je pose plus le type de questions journalistiques. » Tu sais, quand on dit « Monsieur, mettons, Monsieur Lapierre. » Oui, c'est ça, je m'en étais, M. Legault, mais je ne voulais pas faire de référence à l'espace-temps ou quoi. Mais mettons, M. Legault, vous ne trouvez pas si ridicule votre idée? Fait que si je dis ça, ce n'est pas une question. C'est non. Mon point de vue avec un point d'interrogation. Fait que si je dis, par exemple, « Hey, Annabelle, mon Dieu, tu travailles tellement de ces temps-ci, tu dois être fatiguée, hein? » Ça, c'est le genre de questions qu'on reçoit toutes. Ce n'est pas une question ouverte. Ce n'est pas une vraie question. C'est mon point de vue, mon jugement que je transmets sur toi, puis je rajoute un point d'interrogation.
C'est ça.
Fait que si je dis, par contre, « Ah, Annabelle, tu sais, on est en fin d'année, tu dois travailler beaucoup avant les vacances, comment est ton niveau d'énergie? »
Ah! Là, t'as une question ouverte.
Ouais, tu comprends que ça t'ouvre la possibilité de dire…
Bien sûr. Okay,
ben, ouais, oui, tu sais, oui, je travaille beaucoup, mais ah, tu sais, c'est le fun, les vacances.
Là, tu développes entre deux personnes, là. Exactement. C'est pas un sens unique.
En plein ça. Fait que pensez juste à toutes vos questions que vous posez à vos enfants, à votre conjoint, à tout en général, puis à quel point vous êtes dans la conclusion, à quel point vous êtes arrêté, vous avez votre point de vue, vous avez votre idée, votre projection, vos jugements dans vos questions. Quand on enlève le jugement, puis on ouvre la conversation, ça change toute l'énergie.
Et c'est super intéressant parce qu'en neurosciences, on explique souvent que le cerveau ne peut pas arrêter une question. Quand on pose une mauvaise question, on l'entraîne vers une mauvaise réflexion. Quand on pose des questions intelligentes, au contraire, ça permet d'ouvrir et de progresser.
C'est incroyable. Puis tu sais quoi? Il y a bien des gens qui me disent « Ouais, mais Karine, tu sais, c'est pas facile de poser des questions. » Dans la littérature, il y a eu énormément d'études qui ont été faites sur les questions. Et savez-vous quel âge a la queen de la question?
Genre 3 ou 4 ans?
Exactement!
Oui!
Elle a 4 ans!
Parce qu'elle est curieuse et elle veut savoir!
Et elle est engagée. Fait que la queen de la question, entre 0 et 4 ans, a posé 40 000 questions depuis sa naissance, du moment où elle commence à parler. Puis ils ont poursuivi les études, les recherches. Il y a plein de livres intéressants sur la question. Je suis vraiment comme fascinée par autant le côté énergétique que le côté créatif, rationnel, entrepreneurial. Ils ont fait des études, puis se sont rendus compte que quand les enfants rentrent à l'école, il y a une diminution de l'intérêt pour la question. Parce que là, tu te retrouves dans un système, dans du jugement, dans « on n'a pas le temps », ta question est niaiseuse, et là, il y a la peur de poser la question. Ouais. Fait, qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on retrouve la joie d'avoir 4 ans, puis s'exprimer comme on a envie de s'exprimer, de poser le nombre de questions qu'on veut?
Le bon rappel des questions.
Ouais.
Ouais, puis ce qu'il y a de très pertinent aussi dans le livre de Karine, c'est pas un livre destiné à un public féminin. Puis ça, je veux le dire. C'est vraiment un livre qui peut être unisexe, on va dire. Autant les hommes que les femmes vont se retrouver, puis qu'on soit entrepreneur, qu'on soit n'importe quel métier qu'on fait dans la vie, employé, on va se retrouver dans ce livre. Puis autant hommes ou femmes, on va se retrouver. Puis ça, c'est vraiment, c'est très bien fait. Puis je voulais te féliciter pour ça, ma chère Karine.
Tellement. T'sais, oui, ma clientèle, habituellement, dans mes coachings, est essentiellement féminine. Puis le livre a été écrit au féminin parce que moi, j'en avais marre de 100 chiens et une femme être accordée au masculin. T'sais, ça ne marchait pas, mais je sais que ce n'est pas ça. Mais tu sais, j'ai comme, non, je veux m'adresser à mon public, mais tu as raison. Il y a bien des hommes, des fois, qui m'écrivent « Ah, c'est pas pour les hommes. » Je suis comme « Hey, on ne s'est jamais posé cette question-là. » Nous, quand on était jeunes, puis tout était au masculin. C'est pour tout le monde. La question, tout le monde gagne à poser des questions. Puis j'ai lu un livre intéressant l'autre fois qui s'appelle « Questions are the new answers », donc les questions sont les nouvelles réponses, puis ont interviewé les meilleurs questionneurs de la planète, et ce sont pour la plupart des hommes, et ce sont des entrepreneurs, comme Daniel Lamar, comme Richard Branson, comme Elon Musk, tu sais, Pixar, le président, cofondateur de Pixar et de Disney, parce que ce sont des gens qui osent remettre en question toutes les façons de faire. Puis c'est ça le but du livre un peu, c'est... Et si le but de la vie était de s'amuser, ça veut dire que je vais remettre en question le fait que je me prends tellement au sérieux dans toutes les sphères de ma vie, de l'intimité à ma job, en passant par mes finances, mes créations. Comme si je commence à questionner, qu'est-ce que ça peut créer?
Tu disais tout à l'heure qu'il y avait des, chapitres supplémentaires. C'est quoi les bonus qu'on va avoir dans le livre?
Écoute, en ce moment, j'aime bien tout ce qui touche le vieillissement. Je trouve qu'il y a énormément de questions à poser sur le vieillissement. Je suis ouverte, par exemple, pour quelques dernières lignes, si jamais vous avez des sujets pour moi. Mais tu sais, on est beaucoup dans... C'est tout bon, puis je ne peux pas remettre en cause la science, mais on est beaucoup dans « voici ce qui arrive à partir de 50, voici ce qui arrive à partir de 60 ». Puis ce sont des études qui ont peut-être été faites relativement il y a plusieurs années. Il n'y a pas eu les changements d'alimentation. Il n'y a pas la question. Fait que pour moi, l'arrivée de la ménopause, de la préménopause ou du vieillissement, c'est le temps ou jamais de me poser encore plus de questions pour savoir de quelle façon ai-je envie d'évoluer. Tu sais, en anglais, il y a le mot « grow old » qui n'est pas vieillir, qui n'a pas la lourdeur du mot vieillir. Qui a... Grow old, c'est fleurir en âge. Et comment puis-je fleurir à partir de maintenant? Puis je trouve qu'avec les questions, ça m'a permis de relâcher énormément de poids, donc de ne pas embarquer dans la stats que nécessairement j'étais pour prendre du poids, engraisser et tout le reste. Comme je vais plus demander à mon corps, c'est OK, on est rendu dans une nouvelle ère, on est en train de transitionner, on est en train d'explorer une nouvelle phase. Qu'est-ce qui est requis pour toi maintenant? Puis je pointe vers le livre, le futur livre d'Émilie qui va prendre forme bientôt. Pour moi, ça voulait dire réduire les sucres. Pour moi, ça voulait dire retirer le gluten, arrêter les pâtes et tout. Puis pas en punition, juste en reconnaissant que mon corps n'avait plus la capacité d'absorber ces aliments-là.
Fait que pour moi, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui arrive à partir de 50 ans? Parce que dans 2 mois, je vais avoir 50 ans. Ça me fait peur. Ça me fait peur.
Non, non, non. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Le meilleur est à venir.
Regardez des surprises, Jean-Luc.
Oui, c'est ça. Chaque bière 50, là, le lendemain, lève les couvertes avec joie. Découvre ton corps.
Non, non, bon.
Tu demanderas à ton corps qu'est-ce qui est requis ce matin-là, alors.
Ouais. J'ai déjà le corps, il fait des demandes, donc. mais c'est vraiment un très beau livre qu'on a hâte de découvrir. Puis il sort quand le livre? Est-ce que tu as une idée?
Je regarde Annabelle du coin de l'œil. Moi, je dirais deuxième trimestre.
Mars-avril, mars, moi, je dirais.
Avril, avril, janvier, février, mars, c'est ça.
Début du deuxième.
Pardon?
Début du deuxième trimestre.
Ouais, début du deuxième trimestre.
On essaie d'y aller rapidement, mais évidemment, comme Karine disait, elle voulait le bonifier un peu. Et c'est un volet qui est important parce qu'en effet, moi, j'ai une clientèle qui est dans la soixantaine, entre autres. Cette clientèle-là, elle croyait que quand arrive la ménopause, bien, arrivent les problèmes, les chaleurs, les difficultés. Et j'arrivais avec des questions en disant, c'est écrit où ça? Parce qu'en neurosciences, on nous dit que le cerveau peut continuer de progresser jusqu'à la mort quand on sait comment s'y prendre. Et les questions sont tellement pertinentes. Tellement pertinentes.
C'est incroyable. Puis ça fait en sorte qu'on peut remettre en question tout ce qu'on a appris. On peut désapprendre beaucoup. On peut relâcher beaucoup. Puis on peut. Moi, j'aime bien la question. Et si je n'avais aucune idée de ce que c'est vieillir? Et si je n'avais aucune idée de ce que c'est la ménopause? Comment je le vivrais?
J'aime tes questions.
Oui, tu comprends? Fait que je fais juste toujours twister ça pour me dire « OK ». Puis j'aime beaucoup, tu sais, jouer. Mon père m'inspire beaucoup avec l'Alzheimer. Et si j'oubliais ce que c'est? Ouais. Et si je faisais une joyeuse amnésie?
De comment... Volontaire! Volontaire!
Exact! Fait que ça veut dire qu'on désapprend. Qu'on relâche un peu tout ce qu'on a appris. Puis encore là, je vois Émilie qui est là sur tout ce qu'on a appris au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que je pourrais désapprendre? Et si je n'avais aucune idée de qu'est-ce que c'est me nourrir, qu'est-ce que je mangerais? Si je n'avais aucune idée de ce que je dois manger, qu'est-ce que je mangerais?
Et si le sucre n'existait pas, qu'est-ce que je mangerais?
Exactement! En plein ça!
Mais on parle beaucoup de ménopause, mais pour l'homme, il y a l'andropause.
Oui, oui. Ouais.
Puis, t'as raison.
Puis, je l'ai vécu.
Mais t'as tellement raison. Puis encore là, pour moi, c'est un appel à l'action. Tout ce qui s'appelle, mettons, on va appeler ça la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, ou comment les gens peuvent le déterminer, ou l'andropause. Pour moi, c'est une incapacité à se mentir plus longtemps.
C'est ça. C'est tellement bien dit.
C'est pour, puis, tu sais, ça me donne un frisson.
J'adore.
Ça fait des années que je fais semblant que où je continue, puis que je passe par-dessus mes envies, puis que je passe par-dessus mes désirs, puis que je passe par-dessus ce que j'ai vraiment envie d'être. À 40 ans, 50 ans, le corps, il fait comme, c'est fini, le mensonge. C'est pas fini la vie, c'est le mensonge éternel.
Ouais. Il n'en veut plus ton corps à 50 ans des mensonges.
Il n'en veut plus des mensonges, puis de toutes les formes de mensonges. Mm. Est-ce que ça fait du sens pour vous?
Oui, oui, absolument. J'adore fleurir avec toi.
Oh oui, on va fleurir ensemble. Qui sait combien de livres on peut sortir en 2024?
Oh,
ben.
Écoute, il y a qu'Annabelle qui connaît la réponse.
Et le diable, sans doute.
Moi,
je dirais deux. Ben, en tout cas, on verra bien. Sinon, ça sera un par année pendant les 50 prochaines années.
Écoute, moi, j'étais partie pour deux aussi, fait qu'on va bien s'entendre.
Oh yes!
On va beaucoup se croiser dans les salons, ma chère Karine.
Avec tellement de joie, là. Puis moi, je t'en vais l'air. On va partir ça. On va dormir dans le stationnement du salon avec joie. Je peux faire le tour du Québec avec vous.
Excellent. Ah,
Et l'Europe aussi.
Ben là, j'embarque avec toi dans ton campagne.
On va ramener.
On te souhaite beaucoup de succès avec ce livre. Puis j'ai bien hâte de te voir dans les prochains salons. Ça va être vraiment un bonheur de se côtoyer pour beaucoup plus longtemps que la dernière fois au Salon de l'Éveil. Puis ça va être vraiment une très belle venue chez Béliveau de t'avoir avec nous, vraiment.
Je suis très touchée, Annabelle, Lolita, Jean-Luc. Merci pour ce joyeux moment en votre compagnie.
Merci beaucoup.
Passe de joyeuses fêtes, toi.
Salut bien.
Merci, non, Karen.
Salut.
On devait avoir une dernière invitée, mais elle ne s'est pas connectée. Donc.
Elle nous a peut-être oublié.
Elle nous a peut-être oublié. Mais en tout cas, comme vous voyez, on a beaucoup de belles nouveautés. Annabelle, tu pourrais dire, par exemple, les.
Plein de diversité, surtout.
Oui, mais surtout les autres auteurs et autrices qui vont s'ajouter à Béliveau avec les sorties prévues jusqu'au mois de juin à peu près pour Béliveau. Est-ce que tu peux en dire quelques-uns?
Bien, déjà, on va avoir le livre d'André Rossin-Artia, qui est le livre sur la communication non-verbale pour bien voir les signes de menace. Donc, pour être capable de voir quels sont les éléments chez l'autre personne, que ce soit un agresseur, que ce soit un soldat, que ce soit simplement un collègue, un client qui devient plus agressif.
Dans un quel conjoint.
Un conjoint. Dans quel moment on devrait commencer à modifier le discours? Quels sont les éléments du corps qu'on peut mieux lire pour être en mesure de voir l'état réel de la personne qu'on a en avant de nous? Il faut savoir que André, c'est un policier, pompier, ambulancier, puis comme j'aime à le dire, un tueur d'alligator dans ses temps libres. Et donc, c'est quelqu'un qui est dans toutes sortes de situations où il doit faire face à bien des gens qui ont parfois des comportements inappropriés. Et c'est aussi un expert en analyse du langage corporel. Moi, j'avais vu la première version de son livre, parce qu'évidemment, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Et là, il va nous sortir une section vraiment revampée. C'est quelqu'un qui est allé, entre autres, en Ukraine. Donc, il a eu affaire à différents soldats, à différentes familles aussi qui étaient éprouvées. Donc, ça lui a permis de bonifier davantage son livre. On a Sonia Alain, dont on a parlé tout à l'heure, qui nous propose deux romans en 2024. Ça devrait être extraordinaire. Sonia Alain est déjà une auteure qui est bien connue.
Donc, Cléopâtre.
Hélène nous dit qu'elle est arrivée. On a Jacques Charland qui va nous proposer son premier roman aussi. Et qui devrait être super intéressant. Jacques, c'est l'histoire de sa mère dans les années 30 qui s'est retrouvée veuve à une époque où une femme ne pouvait pas signer elle-même son loyer et qui a vécu toutes sortes d'incidents, d'aventures, de défis incroyables. Et il nous a monté ça sous la forme de roman. On a le journaliste Jean Houle qui nous propose un roman aussi au fin août, début septembre, dans La Bonne Gang. C'est une histoire qui se passe dans le monde du hockey pour un jeune homme qui est homosexuel et qui essaie de s'en sortir. C'est super intéressant, vraiment bien tourné. Tu as parlé de Chantal Simard aussi pour les recettes de Chantal.
Oui.
Bien aussi. On va probablement avoir d'autres auteurs qui sont en train de fignoler des livres là, qu'on est en train d'attendre après leurs prochains ouvrages. On a évidemment Madame Dean là, qui va sûrement nous proposer un autre astrologique. On a des livres là, qui sont récurrents comme ça. Annick Lapatte est en train de travailler pour probablement un autre livre. On pourrait peut-être avoir un autre agenda. On pourrait peut-être avoir d'autres projets aussi. Il y a plein d'éléments. Il y a tellement de livres à sortir. C'est vraiment hallucinant.
Oui. Puis notre prochaine invitée, elle s'est enfin connectée. On va l'accueillir. C'est Hélène Turmel. Bonsoir, Hélène.
Je sens que la connexion Internet est en un hockey.
Ouais.
Oups. Elle part, elle revient, elle part.
Elle revient. Bonsoir, Hélène.
Il reste juste à activer le micro.
Oui, activer le micro. Le micro.
Le micro.
Le micro.
Oui, je sens que la connexion Internet est vraiment plus lente.
Oui, le micro, s'il vous plaît.
Le micro, Hélène, il faut activer le micro en bas. Ah, oui, tu l'avais. Non, reviens. Reviens, reclique une autre fois. Oui, c'est bon.
Le micro.
Ah, oui.
Bonsoir, Hélène.
Ça y est. Alors, je vous disais que j'ai écouté une bonne partie de l'émission. J'ai trouvé très intéressante. Lolita pose des bonnes questions. Jean-Luc, oui, également. Par contre, je suis aussi énervée que la dame de Keto.
Émilie,
ça y est, j'y suis. C'est peut-être pour ça que je suis en retard. Merci de m'avoir invitée.
C'est quoi ton livre que tu vas sortir, ma chère Hélène, en 2024? Est-ce que tu peux nous expliquer ce livre?
Oui. Oui, j'en suis très fière. D'ailleurs, merci à Annabelle pour la belle image. Finalement, on sent, je ne sais pas si vous allez la voir à l'envers, si je vous la montre. C'est à l'envers, hein?
Non, c'est correct. Vous la voyez?
Oui. Alors, c'est quand même une belle page d'ouverture. Hein. Là, il y a des lignes noires qui sortent, mais je pense qu'en réalité, ça ne sortira pas avec ces lignes noires. C'est un livre en questions-réponses. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir, Francine Grimard et moi-même, pour d'abord décider des questions. Il y a 16 questions, telles que c'est quoi la souffrance, c'est quoi l'âme, c'est quoi le ciel. C'est toujours une question sur un thème bien particulier. Il y a même sur la mort. En tout cas, il y en a 16. On a fait des recherches à travers nos lectures, des livres, Internet, etc., etc., pour trouver pas juste notre réponse personnelle, pas juste notre réponse à nous, qu'est-ce qu'on pense que c'est de l'âme, ou qu'est-ce qu'on pense que la mort est, ou qu'est-ce que le ciel, mais on est allé chercher des réponses par rapport à des scientifiques. Alors, c'est un livre que j'ai relu 26 fois, et les 26 fois, j'ai eu du plaisir encore à le lire tellement que j'ai moi-même appris énormément de choses. Alors, j'espère que le public apprendra autant de choses que j'en ai appris moi-même. Et aussi, c'est un livre pour tous. Donc, je pense que c'est pour toute confession même. C'est pas nécessaire d'être catholique, musulman ou athée ou agnostique. Non, c'est vraiment un livre amusant universel. En même temps, mais très sérieux aussi. Universel.
Universel?
Oui. Et qu'est-ce qui a été le plus...
Oui, allez.
Oui, j'ai pas compris ta question.
Non, vas-y, Hélène, continue.
Ce que je voulais mentionner dans la magie de la vie, la magie de ce livre-là, c'est que ce livre a été écrit avec Francine Grimard. Francine Grimard est un membre, Annabelle va être au courant aussi, Jean-Luc, est un membre du cercle d'écriture « C'est à ton tour d'écrire », qui « C'est à ton tour d'écrire » est un livre édité chez Béliveau. Donc, je l'ai connu grâce à ce cercle d'écriture. Et c'est elle qui m'est arrivée un matin en me disant, parce que en plus, c'est presque un miracle, elle demeurait dans la même ville que moi, tandis que tu sais, à ton tour d'écrire, il y a des gens de toutes les villes et de nombreux pays, mais elle demeure tout près de moi, je ne la connaissais pas, je l'ai connue par « C'est à ton tour d'écrire », et elle se lève un matin puis elle se dit, « Me semble qu'on devrait écrire un livre, Hélène et moi, on ne se connaissait pas, on s'est connus, on s'est parlé peut-être 3 heures ensemble, sur place par contre, pas juste au téléphone, on était vraiment ensemble. » Et quand elle m'a proposé ce livre, j'étais emballée, d'autant plus que ce n'est pas le hasard qui fait qu'on s'est rencontrés. Ce n'est pas le hasard, c'est la vie qui nous a amenés. Et le livre qu'on a écrit ensemble, c'est pour expliquer que tout le monde sait qu'il n'y a pas de hasard, mais comment faire pour justement être au bon endroit au bon moment? Et ce sont les questions posées qui vont permettre aux gens, s'ils le lisent bien sûr avec attention, de réaliser que c'est la vie qui s'occupe d'eux et non pas d'eux. Ils n'ont pas à s'occuper, personne n'a à s'occuper de soi-même. C'est la vie qui s'occupe de nous et automatiquement, on s'occupe des autres. Et à par ricochet, on va arriver vers un monde meilleur, donc une nouvelle terre.
Le plus gros défi dans ce genre de... Excuse-moi, votre plus gros défi quand vous avez écrit ce genre de livre-là, parce que veux pas, il y a de la recherche, mais c'était quoi le plus gros défi?
Le plus gros défi, c'était d'adoucir les mots. C'était okay. Vraiment le plus gros les défis. Parce que par moments, on voulait crier, dire des choses, on voulait... Et là, une fois qu'on a écrit tel qu'on le ressentait, on a mis plusieurs heures, des heures, à tout redire de la même... sans perdre le sens de l'idée, en disant la même chose, mais en adoucissant. Et le plus beau cadeau que j'ai reçu de l'éditrice Diane Perrault, c'est qu'elle a dit que le livre était bien écrit. Alors, ça m'a fait un grand, grand plaisir parce que quand on écrit un livre, ça ne veut pas dire qu'on va savoir écrire. Ça veut dire qu'on a des idées, mais est-ce qu'on sait bien l'écrire? C'est autre chose. Alors, c'est dans ce sens-là que quand elle m'a dit, Hélène, c'était bien écrit. C'était bien écrit.
Alors, ça, la différence ça, entre la pensée et le rendre.
Exactement.
Exactement, oui.
Tu fais des très bonnes relations. Hein. C'est vraiment extraordinaire de t'entendre et d'arriver au bon moment.
Ah, merci.
Ce qui est intéressant, c'est que ce livre-là permet de se déposer puis de se reconnecter à soi. Parce qu'on a une tendance à s'étourdir, à faire plein de choses. Et le livre nous amène à s'arrêter, se déposer. C'est juste déposer. Prendre le temps de voir clair.
De regarder ailleurs que...
Que le nombril.
Et se déposer dans un seul instant aussi.
Oui. Oui.
Se déposer dans un seul instant. Parce que les gens, on parle souvent du temps. Quel temps il fait dehors? On ne dit jamais quelle température il fait dehors. On dit quel temps. Alors le temps, dans ce sens-là, ça dit ce que ça dit. Mais le temps, dans le sens de instant et présent, ça n'existe pas. Le temps n'existe pas. Il y a juste un seul instant qui existe. Et qu'est-ce qu'on en fait de cet instant-là? On en fait de la douleur, parfois, des questionnements, de la peur. Donc, on pose la question, justement, la peur. Pourquoi on a peur? C'est simple. Pourquoi on a peur? C'est qu'on est trop responsable. On est trop seul avec nous-mêmes. Mais à partir du moment qu'on se sait en communication directe avec l'univers ou avec le divin ou avec même notre grand-mère, s'il le faut, mais à ce moment-là, nos peurs sont nettement diminuées. Comment peut-on avoir peur quand on sait que quelqu'un est là avec qui on peut communiquer, avec qui on peut poser des questions, avec qui on sait qu'on aura des réponses instantanées, peut-être pas instantanées, mais elles vont arriver instantanées, pas instantanées par rapport à notre question, mais elles vont arriver.
Il faut être à l'écoute.
À l'écoute. Oui, et pour être à l'écoute, c'est être dans l'instant. Un ne va pas sans l'autre.
Et à quel moment le livre il va sortir à peu près, Hélène?
Oh, ça fait 2 ans qu'on attend.
Oui.
Le 31 janvier, le livre a été remis pour la première fois il y a 2 ans. Exactement. 2 ans. Alors, le 31 janvier 2024, et on a vraiment hâte, Francine et moi. J'avoue qu'écrire un livre à deux, je ne sais pas si beaucoup ont vécu cette expérience. Pour les romans, ça doit être impossible. Mais vivre,
écrire un livre,
c'est possible pour les romans?
Oui, à deux mains, à quatre mains, oui.
Ah, mais je pensais que ce n'était pas possible. Mais écrire un livre à deux, là, c'est... Pour moi, ça a été le bonheur total. Bonheur total, parce que quand une avait une idée, l'autre, quand Francine avait une idée, tout de suite, je comprenais ce qu'elle voulait. La même chose, on était dans un... On était dans une...
Connecté? Vous étiez connecté?
Oui. Très connecté, très connecté. Et jamais, 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 on a eu... une ombre ou une étincelle de dire non, elle ne comprend pas. Non, c'était toujours le bonheur total, total. Et ça, c'est assez exceptionnel. Ben, je ne sais pas trop, je n'ai pas d'expérience, mais quand même, écrire un livre de plusieurs pages sans accro, on voyait...
Une belle réalisation.
Oui.
Oui, on était connectés dans tous les sens du mot.
Parfait. Ben, on va lire ça avec grand intérêt, ma chère Hélène. Donc, fin janvier, on va lire ton livre « Vers une terre nouvelle », si ma mémoire est bonne.
Exact, « Vers une terre nouvelle ». Oui, je voulais mentionner, parce que c'est un peu drôle, un peu, quand on y pense, parce que le sous-titre, c'est... Voyons, le sous-titre... « Réponse aux grandes questions de la vie ». Quand on pense à ça, réponse aux grandes questions de la vie, ça veut dire qu'on a répondu à des grandes questions de la vie. Ça fait un peu redondant et gonflé un peu, mais on a osé. On a osé. Alors, merci à tous ceux qui vont le lire d'accepter notre sous-titre « Réponse aux grandes questions de la vie ». Mais ce n'est pas vraiment une réponse complète. Chacune des réponses est une façon
de voir.
Pour vous, à vous-même, répondre à votre question. Parce qu'on ne peut pas répondre à des questions comme le ciel, la sagesse, l'amour, l'amour universel. On a touché juste une infime partie sur chacune des 16 questions.
Parfait. Bon, on va lire ça avec un grand intérêt. Puis je pense qu'il y a déjà un Béliveau rencontre qui est prévu au courant de 2024. Je n'ai pas la date devant moi, mais on va l'annoncer.
Au revoir.
On va se revoir prochainement, ma chère Hélène, pour en parler durant une heure de ce livre. Là, là.
Et merci beaucoup. Merci Annabelle. Merci Lolita. J'ai hâte de te rencontrer. Jean-Luc
aussi. Oui, moi aussi.
À très bientôt.
Joyeuse fête.
À bientôt.
Joyeuse fête en famille. Bye-bye.
Joyeuse fête. Pour les personnes qui nous écoutent, c'était le 90 minutes avec toutes les nouveautés de Béliveau pour l'année 2024, de janvier à juin. Puis on va sans doute refaire quelque chose pour septembre jusqu'à décembre, de faire cette même formule qui a vraiment bien fonctionné. Puis il y a beaucoup de personnes et beaucoup de questions qu'on n'a pas eu le temps de poser. Merci Annabelle d'avoir été là avec nous pendant ces 90 minutes. Merci Lolita. Je vous souhaite à tout le monde et à vous deux de très joyeuses fêtes. Profitez de ce moment en famille, reposez-vous. Puis on se donne rendez-vous le 10 janvier avec Pascal Piquet qui a écrit entre autres le syndrome de Tarzan. Et je vous l'annonce, ce ne sera plus le mercredi soir, mais dorénavant le mardi soir qu'on se donne rendez-vous. Ça va être beaucoup plus simple avec un mardi soir. Donc, c'est un nouveau rendez-vous. Des fois, on peut le dire parce qu'Annabelle, on a cédulé ça. Les Béliveau rencontres sont prévues jusqu'en septembre 2024. Puis, pendant les périodes de Salon du Livre, ça se peut qu'il y en ait un par semaine. Puis, il y en a parfois, ça va être aux deux semaines, mais il va y avoir des périodes un peu plus dense où on va se retrouver chaque semaine, mais vous allez être mis au courant des diffusions. Je vous souhaite beaucoup de repos. Merci encore à vous deux.
Moi, je vous souhaite juste assez de tout pour que le surplus, vous puissiez le partager avec votre entourage. C'est pas pire, hein?
C'est pas pire.
On se revoit bientôt. Gros bis à tout le monde. Puis amusez-vous, mais faites pas trop d'abus. On veut vous revoir l'année prochaine.
Et si vous faites des choses, ben faites-le bien au moins.
Ouais,
toujours.
Bye-bye.
Bon, Annabelle.
Écoute, je vous souhaite les choses essentielles, l'amour, la santé, la paix d'esprit.
Et voilà.
Puis à travers
ça, partagez-le avec les autres.
Puis à travers ça, quelques verres de vin avec modération.
Oui, oui.
Ben, un petit verre de champagne pour fêter la nouvelle année.
À la prochaine.
À la prochaine. Merci tout le monde. On se retrouve le 10 janvier avec Pascal Piquet. Merci tout le monde. À la prochaine. Salut.